Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ici et maintenant, il nous touche. Nous applaudissons, nous acclamons, nous célébrons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Wow. Merci Seigneur. Sommes-nous heureux d'être là ce matin? Sommes-nous contents d'avoir été touchés par Jésus? Beaucoup de gens pensent que quand on dit toucher, il doit sentir des sensations sur son corps. Il doit vraiment sentir une main qui passe et qui le touche littéralement. Le fait que tu aies résolu de venir ici, c'est que Dieu t'a touché. Ta présence à Célé n'est pas un hasard. Dieu t'a touché. Dieu t'a touché. Et cela suffit pour que nous lui donnions toute la louange. Cela suffit pour que nous proclamions sa grandeur et sa puissance. À Dieu soit toute la gloire, à Dieu soit tout l'honneur. Nous disons merci à Dieu pour cet amour et ces grands privilèges qu'il nous donne de nous retrouver dans sa présence et dans sa maison. Nous disons également merci à notre père et pasteur, le frère Maurice Mouéou, qui a bien voulu qu'en ces jours du 28 avril, que nous puissions intervenir au centre évangélique francophone La Borne Matadi, l'Église est sous sa responsabilité. Parce que cela est ainsi, c'est sous sa responsabilité. Amen. Que Jésus se souvienne de lui alors qu'il apporte la parole tout de suite là. Je crois que peut-être il est déjà en train de parler ou peut-être qu'il va commencer d'ici là la parole d'Issali Gombe. Que Dieu se souvienne de lui et qu'il le fortifie dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Amen. Je dirais sincèrement merci pour tout le temps que j'ai passé en ces lieux. Aujourd'hui, c'est le 28. Je me prépare déjà à retourner à Kinshasa. C'est mon dernier dimanche aujourd'hui ici. Le dimanche prochain, je serai au centre-ville. Et après le 10, j'ai fait Kinshasa parce que les cours doivent reprendre le 13 mai. Et nous irons jusqu'au mois de juillet. J'aimerais demander la prière de l'Église. Alors que je vais me prosterner, je vais vous demander de prier pour moi. Que Dieu se souvienne de tout ce que nous, de tout ce qu'il met sur notre chemin, de toutes ces possibilités, ces opportunités dans les ministères. Que Dieu se souvienne de nous. Et dernièrement, j'ai connu un accident qui a failli être mortel devant l'aéroport. J'ai vu mon pneu qui avait commencé à se découper en morceaux. Les pare-chocs étaient coupés en deux, des morceaux de débris qu'on a dû aller récupérer à 100 mètres. J'étais à presque à 120 à l'air, parce que sur ces tronçons-là, c'est souvent dégagé autour de 15 heures. Mais Dieu a maintenu les pneus pour qu'ils ne connaissent pas la crevaison. Mais il n'y avait qu'une petite membrane qui était restée là, avec un peu d'air à l'intérieur. Donc il suffit que je marche sur un morceau de caillou un peu pointu, les pneus allaient s'éclater et ça allait me mettre en déséquilibre. Et, vous savez, ça, c'est les boulevards. Donc, il y a des gens qui viennent derrière toi qui sont en vitesse. Il y a des gens qui sont devant. Donc, au moindre déséquilibre, soit tu fais les tonneaux, soit tu te pousses par derrière. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi et que vous puissiez prier également pour ma famille. Est-ce que vous pouvez lever votre voix? Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, une fois n'est pas coutume, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Tu sais prendre tes serviteurs en charge. Souviens-toi de cette œuvre, Seigneur, qui nous a bénis. Cette œuvre, Seigneur, qui a travaillé pour notre épanouissement spirituel, social, matériel, moral et tout. Seigneur, cette œuvre, ô Dieu, qui nous a vu grandir. Seigneur, souviens-toi de ces hommes et les femmes. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Ça peut vous offrir au Seigneur nos applaudissements. Que Jésus seul soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 2, pardon. 1 Samuel chapitre 2. Verset 22. 12. D'abord le verset 12. Et le verset 22 au verset 26. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Les versets 22 jusqu'au verset 26. Ensuite, nous lirons Actes chapitre 10, les versets 34 et les versets 35. Nous poursuivons notre enseignement sur Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Et nous sommes en train, depuis il y a deux semaines, nous sommes en train d'aborder la quatrième marche de notre pyramide de maturation que nous avons dénommée « Être agréable à Dieu et aux hommes ». 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Ensuite, nous lirons du verset 22 au verset 26. Et nous prendrons Actes chapitre 10, les versets 34 et les versets 35. Les autres passages viendront au fur et à mesure que nous allons évoluer. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Versets 22 à 26. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Actes chapitre combien? 10, les versets 34. Et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Seigneur, ta parole est tellement claire que nous ne pouvons pas, oh Dieu, trouver des prétextes pour dire que nous ne l'avions pas comprise. Elle est claire. Dieu ne fait point exception des personnes. Tu attires vers toi les hommes de toute race, de toute couleur. Tu les amènes devant toi avec un seul objectif, te révéler à eux. Un seul objectif, faire briller ce que tu as mis en eux, ô Dieu. Mais cependant, Seigneur, alors que toi, tu ne fais exception des personnes, mais l'homme souvent fait les choix, ô Dieu, de se détacher de toi. Mais pourtant, il est là, il vient, il soupire après ta bénédiction. Mais tu restes un Dieu des principes. Tu as voulu que le monde fonctionne avec des lois naturelles, mais tu as voulu également que le monde spirituel fonctionne avec des lois spirituelles. Et nous voulons, Seigneur, nous conformer à tes lois pour être des véritables bénéficiaires de ta bénédiction. Tiens-nous la main, Seigneur, et aide-nous. Ce matin, ouais ta parole. Qu'elle trouve le chemin de chaque cœur ici présent. Qu'elle nous façonne, qu'elle nous transforme, qu'elle nous donne la forme qu'il faut pour que nous soyons ses disciples capables de bouger ce monde, d'influencer nos familles, d'influencer la société dans laquelle nous vivons. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons accueillir la parole de Dieu avec reconnaissance. Je disais que nous le faisons avec reconnaissance. Cette parole puissante et glorieuse, elle a tout pour changer notre vie. Elle a tout pour transformer notre existence. À Jésus soit toute la gloire. Amen. Être agréable à Dieu et aux hommes. C'est cela la quatrième marche de notre pyramide de maturation d'un adopté. Nous entrons dans la maison de Dieu comme Samuel est entré un jour dans la maison de Dieu. Tout commence par un pas que nous mettons dans la maison de Dieu. Et ce pas commence par les services que nous sommes censés accomplir dans la maison de Dieu. Mais tout là, parce que celui qui commence par ses services doit finir par la reconnaissance de ses dons, de cet appel que Dieu a mis en lui. Mais au milieu de ces processus, il faut être agréable à Dieu. Et il faut être aussi agréable aux hommes. Et le dimanche d'avant, nous avons compris, nous avons essayé de chercher à comprendre ce que voulait dire être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches. Être agréable à Dieu, ce n'est pas le fait même de prier. Être agréable à Dieu n'a rien à voir avec présence régulière à l'église. Parce qu'on peut être dans la maison de Dieu et ne pas être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu n'a rien à voir avec les services que nous rendons dans la maison de Dieu. Parce qu'on peut servir Dieu et ne jamais être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu n'a rien à voir au fait que je suis l'enfant d'un serviteur de Dieu, je suis l'enfant d'un pasteur, cela n'a rien à voir avec cela, c'est tout autre chose. Être agréable à Dieu n'a rien à voir avec mon rapprochement, avec une église, avec un serviteur de Dieu, rien de tout cela. Être agréable à Dieu, c'est bien autre chose. Ce n'est pas le fait d'être né dans la maison d'un serviteur de Dieu, ou le fait d'avoir beaucoup d'années dans une église, qu'on croirait qu'on est agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, ce n'est pas le fait d'être serviteur de Dieu dans une église portant un titre. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Les titres ne disent absolument rien à Dieu. N'apprenez pas qu'aucun des apôtres, vous lirez toute la Bible, vous ne verrez jamais. On a appelé Pierre, apôtre Pierre, ou tel autre, apôtre ceci, apôtre cela. Non. Parce que les titres importent peu pour eux. Ça n'avait aucune importance. Ce qui était plus important pour eux, c'est le fait d'être agréable à Dieu par leur caractère. Être agréable à Dieu, ce n'est pas synonyme d'avoir fait de grandes études théologiques. Parce que c'est cela aujourd'hui à la mode. Les gens vont plus loin dans leurs études pour camoufler leurs insuffisances sur terrain. Et ils se couvrent derrière des titres. Je suis en master, je suis doctorant, j'ai le doctorat tridoc, quatridoc, quintidoc. Rien de tout cela ne fera de toi un homme agréable à Dieu. Parce qu'on peut avoir des diplômes et être impudique. Être agréable à Dieu, c'est plaire à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est être apprécié de Dieu. Être agréable à Dieu, c'est savoir gagner de plus en plus la confiance de Dieu, la faveur de Dieu. Et c'est la question que chacun doit se poser chaque jour. Quand tu te réveilles, pose-toi la question de savoir, avec ces années que j'ai fait dans la marche chrétienne, suis-je agréable à Dieu? Suis-je apprécié de Dieu? Est-ce que je gagne de plus en plus la faveur de Dieu, quand bien même que cela est une grâce? Pierre affirme que Dieu ne fait exception des personnes. Dieu ne choisit pas qui va être agréable à lui ou qui ne doit pas être agréable à lui. Dieu ne fait exception des personnes. Mais les choses se décident au niveau de l'homme lui-même. Il dit, mais en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Vous entendez? Il ne fait exception de personne. Ce matin, nous sommes venus de partout. Nous sommes venus en ces lieux parce que Dieu est important pour nous. Mais dans cette démarche, dans cette motivation qui nous a tous animés d'être là ce matin, posons-nous la question de savoir, est-ce que nous sommes agréables à Dieu? J'ai payé mon transport, j'ai affronté les embouteillages et autres et tout ça, mais je viens quand même de la maison de Dieu et Dieu ne me reconnaît pas comme étant agréable à lui. Une perte de temps notoire. Pierre affirme que Dieu ne fait exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable.
Comment être agréable à Dieu? Nous avons dit qu'il faut premièrement apprendre à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que Pierre l'a dit. Premièrement, il faut marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Deuxièmement, il nous faut pratiquer la justice. La crainte de Dieu, la pratique de la justice, nous reviendrons sur ça dans d'autres occasions. Marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous l'avons dit, ça n'a rien à voir avec la peur de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait de venir dans la maison de Dieu avec une démarche bien lente, avec un cou un peu penché. Puis on dit, là, on est dans la crainte de Dieu. Et pourtant, quand on va dans les bars, on est tout, voilà, tout excité. Mais quand c'est ce dimanche matin, on sait qu'on va aller à l'église, on choisit des habits. Mon Christ, Azali Mouinda. Et puis on marche tout lentement là. Et quand on veut toucher un tout petit peu, non. Ne dérange pas, Dieu est ici. Je marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir dans la maison de Dieu avec une démarche lente, accompagnée d'une tête penchée. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait de porter une très longue jupe couvrant tous les pieds jusqu'aux chevilles pour dire que voilà, je suis en train de craindre Dieu. Mais parce qu'on peut avoir une longue jupe, mais être une grande impudique. Mais par contre, celle-là qui a cette jupe-là, qui est mini, elle est une ancienne impudique, mais elle a commencé à changer. La jupe va commencer aussi à descendre petit à petit. Mais elle a déjà pris une décision. Elle n'est plus dans cette vie-là. Mais toi, avec ta longue jupe, tu essaies de camoufler, de cacher ta vie. Mais tu es là, championne en impudicité. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec le fait de se prosterner dans la maison de Dieu. Parce qu'on peut venir ici devant. On s'étale, tous les kilts, tu l'as passé, couché par terre. Ce n'est pas ça, forcément, la crainte de Dieu. Parce que tu peux avoir couché là par terre, tu es en train de réfléchir sur les dossiers. Parce que personne ne t'entend. Tu réfléchis sur les dossiers. Oh, voilà, on a un conteneur, on a un bout, on a 5 000. On a deux têtes à remorque. Mais tu es là couché. Personne ne t'entend. Nous, on voit seulement l'attitude, on voit les gestes, puis on dit, ouh, il est en extase. Voilà les gens qui craignent Dieu. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec tout cela, frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup qui nous intimident des fois aussi. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait de prier les mains levées. Et puis vous haussez le temps. Et puis vous bougez les yeux comme les papillons. Piaka, piaka. Non! Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu? Qui est Dieu pour toi? Parce que tu peux élever tes mains, mais un grand tricheur, un grand voleur, c'est toi qui es la plaque tournante dans la salle d'examen pour distribuer les réponses. Tu es devenu distributeur automatique des réponses. À telle enseigne que tous tes collègues savent. Et l'okwanaïe. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait de venir à la maison de Dieu. Et on sert. Et on travaille. Et on est dévoué. Et quand on est devant les serviteurs de Dieu, la tête est là, on est prêt à se prosterner. On est prêt à ramper même par terre. Tout cela n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'honneur que nous devons à Dieu. Église du Seigneur, nous devons apprendre à honorer Dieu. Dieu n'attend pas que cet honneur soit au dehors. Dieu attend que cet honneur vienne du dedans de nous. Honore Dieu dans ton cœur. Honore Dieu dans ton comportement. Honore Dieu dans ton caractère. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tournez les dos au mal. Quand nous craignons le mal, Dieu nous ouvre la porte de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dieu nous ouvre la porte de la sagesse parce que nous avons tourné le dos au mal. Comment voulez-vous dire que vous craignez Dieu, mais vous continuez à vivre dans les péchés? Vous continuez à vivre dans le mal. Vous continuez à détruire d'autres personnes par votre caractère et par votre comportement. Ce matin, poursuivons notre enseignement en analysant les résultats de la crainte de Dieu. Nous avons vu la notion de la crainte de Dieu et ce matin, voyons les résultats de la crainte de Dieu. La question qu'on peut se poser est celle de savoir pourquoi devons-nous marcher dans la crainte de Dieu? Pourquoi Dieu nous demande de marcher dans la crainte de Dieu? Pourquoi c'est si important pour lui que le peuple qu'il a choisi, le peuple qu'il s'est acquis au prix du sang de son fils, puisse marcher dans la crainte de son nom? Quel est le résultat de la crainte de Dieu? N'oublions pas que l'autre fois nous avons dit que la vie, l'histoire de Samuel nous apprend comment un homme consacré à Dieu peut briller sur la terre. C'est cela l'objectif. Samuel est un homme consacré, sa mère l'a consacré à Dieu. Parce que Dieu peut nous consacrer tout comme nous-mêmes nous pouvons nous consacrer à Dieu. Dieu a consacré Samson, mais Samuel c'est sa mère qui l'a consacré à Dieu. Un consacré, nous avons dit, c'est un homme mis à part. Cette chair a été consacrée pour Dieu, pour ne recevoir que les Bibles, les papiers de communiqué qui tournent autour de la marche de l'Église, les papiers des actions de grâce qui tournent autour de la marche de l'Église. C'est pourquoi on ne peut pas jouer avec cela. Parce que ça a été mis à part pour un but, pour une raison. Nous ne pouvons pas prononcer des discours politiques ici, peu importe l'argent qu'on peut nous donner. Faites-nous passer un peu là, on va aussi se prendre 2 minutes. Non, ce n'est pas que nous ne vous voulons pas, mais c'est une affaire de consécration. Nous avons déjà fait un pacte avec ce Dieu, nous lui avons dit, tout ça c'est pour toi. Ton corps a été consacré. Consacré à qui? Consacré à Dieu. Mais Dieu a ouvert juste une petite brèche pour un homme, l'homme de ta vie. C'est là que c'est formidable avec Dieu. Ce qu'il n'a pas autorisé, ne le fais pas. Nous avons été mis à part, consacrés. Mais un consacré finit toujours par briller un jour. Pourquoi devons-nous marcher dans la crainte de Dieu? Y a-t-il des résultats lorsqu'on se décide de marcher dans la crainte de Dieu? Pourquoi Dieu nous demanderait une telle chose s'il n'y avait pas de résultats? S'il n'y avait rien derrière cette recommandation du Seigneur? Notez ceci. Nous marchons dans la crainte de Dieu en fonction des résultats qu'elle peut produire dans notre vie. Nous marchons dans la crainte de Dieu en fonction des résultats que cette crainte peut produire dans notre vie. Dieu ne nous demandera pas quelque chose s'il n'a pas prévu des résultats attachés à cela. Nous marchons dans la crainte de Dieu en fonction des résultats qu'elle peut produire dans notre vie. Autrement dit, si Dieu n'avait pas prévu des résultats lorsque quelqu'un marcherait dans la crainte de son nom, alors il n'aurait pas demandé de le faire. Dieu ne nous aurait pas demandé de marcher dans la crainte s'il n'avait rien prévu derrière tout cela. Le résultat de la crainte de Dieu, notez, le résultat de la crainte de Dieu dans la vie d'un homme ne laisseront personne indifférent. Je vous assure, la Bible est formidable. Lisez-la, comprenez-la, pénétrez-la. Vous allez voir qu'il y a des richesses extraordinaires. Cet enseignement est formidable. Je découvre chaque jour des choses. Je ne m'attendais pas qu'on arriverait à ça. On parlerait de la crainte de Dieu dans ce processus de maturation. Les résultats de la crainte de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme, ne laisseront personne indifférent. Tout le monde saura que celui-là craint Dieu. On le verra alors qu'il sera en train de lutter dans la crainte de Dieu. Mais on le verra aussi dans les résultats. Parce qu'il y a toujours un résultat attaché à chaque attitude, à chaque comportement que nous affichons pour Dieu. Il est impossible d'ignorer toujours un homme qui a marché sur la terre dans la crainte de Dieu. Il est impossible d'ignorer toujours. On peut l'ignorer un jour, mais on ne va pas l'ignorer toujours. Il marche à la crainte de Dieu. Tout le monde dit avec cette logique-là, tu mourras pauvre. Il marche à la crainte de Dieu, on lui dira, toi tu as sauté. Il marche à la crainte de Dieu, on dira, toi tu es de l'ancienne époque. Mais ce n'est que pour un moment. Parce que Dieu prépare un résultat pour celui qui marche à la crainte de Dieu. Il est impossible d'ignorer toujours un homme qui a marché sur la terre dans la crainte de Dieu. Car tous ceux qui l'ont connu finiront par voir de leurs propres yeux les résultats que la crainte va produire. Ils verront comment tu te bats pour craindre Dieu. Ils verront également les résultats qui vont s'en suivre. C'est là que je me suis rapproché de cette histoire de Samuel pour essayer de comparer entre lui et les autres fils de Samuel. Ils sont tous enfants dans la même maison. Lui, il venait d'être adopté. Il n'est pas de cette famille, mais il est venu dans les sacerdoces. La Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers et leur perversité était connue de tous les peuples parce que leur père leur a dit ça lui-même. Au verset 23, j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été connu de tout le monde. Ils sont pervers, ils méprisent les offrandes de Dieu, ils n'honorent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Mais voilà qu'un jeune homme, un enfant, un bébé autour de 5, 6, 7 ans qui entre là à Silo. Mais cet enfant comprend la logique de la maison de Dieu. Il dit la règle principale, c'est la crainte de Dieu d'abord. Je ne vais pas me fabriquer une fourchette à 3 dents pour piquer. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Je vais marcher dans la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 20. 1 Samuel 3, le verset 20. La Bible dit... Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël. Alors que les uns, c'est tout Israël qui a reconnu leur perversité, mais cet enfant qui vient, la Bible dit tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que cet enfant-là était établi prophète de l'Éternel. Il n'y a personne qui marche dans la crainte de Dieu qui restera enfoui dans les décombres. Dieu ne nous demande pas de marcher dans la crainte s'il n'y avait pas de résultat. Comment comprendre qu'un enfant, le jeune homme qui vient à peine d'arriver, il est reconnu par tout Israël comme étant le prophète de l'Éternel, alors que les autres gaillards qui étaient déjà là, ils sont reconnus par leur perversité. Je vais dire à un homme ce matin, si tu veux marcher dans la perversité, c'est ton choix, mais sache qu'à côté de toi, Dieu va susciter un jeune Samuel. Il y aura un jeune Samuel qui marchera dans la crainte de Dieu, qui obéira à la parole de Dieu. Dieu va le lever sous tes yeux. Tu regarderas de tes propres yeux et tu verras un jeune homme qui est en train de monter. Pourquoi? Il est un consacré, appelé à briller. Parce qu'il a marché dans la crainte de Dieu, il finira par briller. S'il n'y avait aucun résultat en marchant dans la crainte de Dieu, comment comprendre que le jeune Samuel soit reconnu comme prophète de l'Éternel, alors que les autres gaillards sont reconnus par tout Israël comme étant des hommes pervers? Dieu est juste, frères et sœurs. Tu abandonnes Dieu, tu en paieras les conséquences. Mais tu restes avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas aussi. C'est pourquoi lui-même Dieu vient, toujours au chapitre 2 de 1 Samuel, le verset 30, il parle, il envoie un serviteur qui vient crier sur Élie, le sacrificateur, et il va dire quelque chose de très important. Au verset 30, il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car, il dit quoi? J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront comment? Méprisés. Dieu honore celui qui l'honore. Mais celui qui le méprise, Dieu le méprisera aussi. Dieu est juste. C'est pourquoi Pierre a dit, Dieu ne fait exception de personne. Mais quand toute nation, celui qui l'honore, celui qui le craint, c'est celui-là qui est agréable à Dieu. Honorer Dieu, frères et sœurs, mépriser Dieu, c'est un choix que tu peux faire. Mais sache que cela a des conséquences. Méprise Dieu comme bon te semble. Méprise Dieu par ton comportement. Méprise Dieu par ta vie de l'impudicité. Méprise Dieu par ta vie de l'adultère. Au point que dans la même église, cet homme-là est marié, cette femme-là est mariée, ils se rencontrent quelque part, ils font un troisième couple quelque part. Vous méprisez Dieu, vous le faites dans la maison de Dieu. Vous jouez avec la maison de Dieu, mais vous attendez à ce que Dieu vous honore. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il n'honore pas ceux qui les méprisent. Dieu est juste. Il dit, c'est un petit, mais puisqu'il m'a honoré, je vais l'honorer. Vous avez de l'âge, vous avez de l'ancienneté, vous êtes né dans le sacerdoce. Mais puisque vous n'honorez pas Dieu, ce n'est pas votre ancienneté qui fera que je vous honore. Non, tu peux être ancien. J'ai dit l'autre fois, que du 15 au 22 décembre, nous aurons là, le spécial anniversaire ici, du 25e, de 25 ans d'existence de la mort matérielle. On posera la question ici, qui était là au culte d'ouverture? Il y aura des mains. Qui était là après une année, il y aura des mains. Mais où êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes devenu au fil des années? Tout le monde ne deviendra pas pasteur. Tout le monde n'ira pas ouvrir une extension. Mais dans ce que tu es et dans ce que tu feras, tu dois briller. Mais si tu ne brilles pas, pose-toi la question. Ça bloque à quel niveau? Ça coince à quel niveau? Dieu honore ceux qui l'honorent, frères et sœurs. Tu honores Dieu, Dieu va t'honorer aussi. Tu méprises Dieu, Dieu également va te mépriser. Tout Israël était au courant du mauvais comportement des fils d'Élie, alors qu'ils étaient des sacrificateurs. Tout Israël, parce que leur papa l'a dit. Tout Israël était au courant du mauvais comportement des fils d'Élie, alors qu'ils étaient des sacrificateurs. Mais l'Éternel n'a pas attendu leur mort pour déclarer Samuel comme étant agréable à Dieu. Dieu n'attendra pas que tu disparaisses pour susciter après toi quelqu'un qui lui est agréable. Devant tes yeux, tu verras un jeune homme qui sera en train de monter. Devant tes yeux, tu verras une petite jeune fille qui se démarque. Il n'a pas ton parfum, il n'a pas ton compte à banque, il n'a pas peut-être ta beauté. Il n'est pas de cette famille-là très élevée. Mais puisqu'il craint Dieu, puisqu'elle craint Dieu, Dieu va l'honorer devant toi. Tu verras de tes propres yeux, tu diras... Mais celui-ci est venu sous mes yeux. Je l'ai vu quand il venait. Mais oui, bien sûr, tu l'as vu quand il venait. Mais pourquoi n'as-tu pas appris la leçon que Dieu honore ceux qui l'honorent? Alors que tu l'as vu venir, toi tu brillais dans tes mauvaises pratiques, dans tes mauvaises manières. Dieu va susciter une génération des hommes et des femmes qui lui seront agréables en cet endroit. Ça ne sera pas ton absence, tu seras encore vivant. Mais tu verras des hommes et des femmes qui se démarqueront. On comparera vos cartes de membres. Tu auras une ancienneté sur papier. On verra la date d'arrivée à l'église. 2000. On verra l'autre, la date d'arrivée à l'église. 2016. Mais c'est lui ton responsable de département. C'est lui qui te dit, prie. Et puis quand tu pries là, tu dors. Et c'est lui qui vient te réveiller, frère. Prie, prie, prie. Ancien de Sayo. Dieu est juste, frères et sœurs. C'est pourquoi ça ne sert à rien de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, sans rien voir. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir faire une pause. Et se poser des bonnes questions. Pourquoi depuis toutes ces années, je n'arrive pas à prier? Il est vrai que le temps de Dieu, Dieu a son temps de la visitation divine. Il a prévu un temps où il va se manifester, où il va faire briller ce qui est à toi. Mais, quelque part, pose-toi aussi la question de savoir, est-ce que je ne suis pas responsable de ce qui arrive là? Ils avaient l'ancienneté dans la maison de Dieu à Silo. Ils avaient les titres de sacrificateurs. Mais, cependant, ils n'étaient pas agréables à Dieu. Je vais encourager un homme ce matin. Je vais encourager une femme qui marche dans la crainte de Dieu. J'aimerais dire à cet homme, à cette femme-là, persévère. N'abandonne pas, persévère dans la crainte de Dieu. Bien quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, continue à craindre Dieu. Bien que ça fait mal, craindre Dieu n'est pas facile. Craindre Dieu n'a jamais été facile pour personne. Tu verras des opportunités, tu dis, si je prends ça, je résous tel problème. Mais là, ce n'est pas pour moi, je ne touche pas, ça fera mal. Mais Dieu passera par ton chemin. Dieu ne t'abandonnera pas. Pourquoi? Parce que David vient, revient pour dire, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. C'est un homme qui a une histoire à nous donner. C'est un homme qui a des choses à nous donner. Il dit, j'étais jeune. Il passe en revue tous les parcours de la vie d'un homme ici-bas. Il dit, je vous dis des choses que j'ai vécues. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu et Dieu t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera pas. Quand tu seras en train de marcher dans la crainte de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Ne te pose pas la question, si je ne prends pas cette corruption-là, comment mes enfants vont étudier? Comment je vais payer la maison d'autrui? Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Dieu sait que tu es en train de payer un prix très élevé. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Il y a de cela 5 ans en arrière, j'ai quitté la banque et je suis venu au temple à l'église. Les conditions n'étaient plus les mêmes. Et puis un jour, un vendredi soir, je revenais de l'église, j'ai prêché, j'ai conduit la prière. Et puis je suis rentré à la maison. Et puis on me donne à manger. Et puis tu vois 2 assiettes seulement. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? On était habitué à 4 et 5, mais là c'est 2. Les foufous et les haricots. Maintenant tu te dis, ah, c'est que ma rambango est changée, Benza. Maintenant, je pose la question à Mama Cathy. Qu'est-ce qu'il y a dans ce congélateur-là? Non, il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien pour nous. Mais il y a un carton de poisson qu'on est venu faire garder ici. Maintenant, dans mon cœur, je me dis, attends, j'ai eu mon corps. Est-ce que vous réveillez? Parce que c'est un carton. Je prends, bon, ceux qui nous suivent n'entendent pas. Je peux prendre seulement une pièce. Ou sinon, si je ne peux pas prendre toute une pièce, je prends ça. J'ai fait comme à la chambre Fana, Bambi Ango et Katani Mouke. Ça sortira comme c'est quoi qui t'a basé qui dit ça. Je prends juste une partie. Je lui dis, je mange comme ça. Je mange comme ça. Et puis j'ai mangé. À 6h du samedi, les propriétaires du poisson appellent. Il me dit, pasteur, tu es à Matadi? Oui, je suis à Matadi. Je viendrai le soir à la maison, on va parler et tout ça. Et puis la personne est venue. On a échangé tout ça. Et puis on a prié. Et je devais venir à la prière du soutien. J'ai regardé les guides, l'indicateur au niveau du carburant, au niveau de la voiture. Et c'est qu'est-ce que tu as moins d'agopée là. Mais si je pars avec ça, demain matin on aura des problèmes pour monter à l'église, le temps qu'on soit ravitaillé par l'église. C'est l'église qui donne les carburants. Mais je fais les pieds. Rien dans la poche parce que déjà la veille, la Ligue Saint-Thompson. Donc, je connais mes voies, je sais, parce que ça, il ne faut jamais oublier. Peu importe le niveau que vous allez atteindre, n'oubliez pas les anciens sentiers là, n'oubliez pas, ça aide. Je sais que je peux faire ça, 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 pour que les gens ne me voient pas. Tata, safari, direct, koto, et puis boulangerie. Je connais ça, mais je vais transpirer, mais je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de choix, je dois faire ça. On a prié, et avant de partir, la sœur vient. Elle me suit dehors et puis elle donne une enveloppe. Elle dit, ah, ça calme déjà les esprits, donc c'est bon. Moi, je dis, donne ça à madame. Mais même quand je parle, je sais qu'il y a une enveloppe qui est restée là-bas. Donc, les pieds ont trouvé les carburants. Parce que là, je partais avec tous les courants. Je sais que l'enveloppe, je ne sais pas c'est combien, je ne sais pas. Mais au moins, je sais ce qui est sûr. Eh bien, papier, t'es nakati. Ce ne sont pas des papiers. C'est autre chose. Et puis je suis venu à la prière, j'ai prié, et puis je suis rentré à la maison. Bon. Et puis, je pose la première question, c'était combien? Même pendant que tu circules là, là c'est combien? Je ne sais pas. Et puis je pose la question, c'est combien? Et dans les montants. Mais là, ce n'est pas le problème. Je ne vous dis pas ça pour ça là. Je vous dis pour autre chose. Et puis, elle m'ajoute une chose, elle m'a dit, et elle nous a même donné ce carton de poisson. Vous comprenez ça? Tu voulais prendre une pièce, mais Dieu t'a réservé tout un carton. Il y a beaucoup qui sont ici. Vous, vous, vous,
Vous vous battez pour une pièce. Mais Dieu a un carton pour toi. Je vais dire à un homme, Dieu a un carton pour toi. Ne perds pas ta foi pour une pièce. Ne perds pas ta foi pour un poisson. Mais Dieu a prévu un carton. Tu auras un carton tout entier pour toi. Tu auras un carton tout entier pour toi. Je vais encourager un homme à continuer dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Je sais que c'est pas facile. Même quand j'ai mangé ce foufou-là et ces haricots, des fois ça voulait sortir. Mais je me disais, j'ai mangé malgré cela. Mais le matin, Dieu me dit, non, j'ai prévu quelque chose. Est-ce que j'avais prié pour ça? Non. Est-ce que je suis allé à Mangengenge? Non. Est-ce que j'ai traversé les ponts pour faire ça? Non. J'ai seulement appliqué les principes. J'ai seulement appliqué la loi spirituelle. Tu crains Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Dieu ne t'abandonnera pas. Je sais que tu souffres. Même quand ces dossiers passent devant toi, tu es en train de lutter entre mettre ta signature ou ne pas mettre ta signature. Ne mets pas ta signature. Honore Dieu. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Il va honorer des hommes. Il va honorer des femmes. Ça ne sera pas l'absence de ceux qui s'enrichissent illicitement. Le fils d'Élie avait leur viande au quotidien. Ils l'avaient au quotidien. Ils avaient fabriqué la fourchette à trois dents. Ils piquaient les meilleurs morceaux. Mais devant leurs yeux, avant qu'ils ne meurent, tout Israël avait reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Comment comprendre cela? Dieu n'attendra pas que ces hommes-là meurent. Ils te verront comment Dieu va te changer. Ils verront comment Dieu va t'élever. Ils verront comment Dieu va te distinguer. Ils verront comment Dieu va te façonner. Dieu lui-même va te fabriquer. Dieu lui-même va te façonner. Ça ne sera pas leur absence. On t'a critiqué, on t'a traité de tous les maux. Qu'est-ce qu'il veut faire croire? Qui est-il? C'est quoi être pasteur saint et tout ça? Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas saint. J'ai mes erreurs, j'ai mes défauts. Mais là, j'ai appris à faire le discernement. Ce qui n'est pas à moi, n'est pas à moi. Je ne touche pas à ce qui est à autrui. Ce qui est à autrui, c'est pour autrui. Je ne touche pas. Dieu n'avait pas tardé. Tu voulais détruire ta foi à cause d'un morceau de poisson. Et pourtant, Dieu t'a réservé tout un carton. Dieu t'a réservé tout un carton. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il n'abandonne pas ses enfants. Le même David vient encore pour nous dire quelque chose de très important. Nous sommes dans Psaume 25. Du verset 12 au verset 14. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés. Mais il vient encore avec un conseil très important. Et même David dit encore dans Psaume 25, du verset 12 au verset 14. Il dit quoi? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Écoutez maintenant les résultats qu'il donne. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. On s'arrête d'abord là. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Il faut comprendre une chose. Lorsque nous naissons nouvellement en Christ, Dieu nous met dans une position de marche. Parce que la vie chrétienne est une vie de marche. Nous ne sommes pas sauvés pour rester sur place. L'image, c'est l'image d'Israël qui est sorti de l'Égypte et qui doit affronter le désert pour arriver dans la terre promise. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Mais ils vont marcher où? Devant la mer. Ils vont marcher où? Devant le désert. Dans le désert, il n'y a pas de panneaux de signalisation. Dans le désert, il n'y a pas de route toute tracée. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Mais Dieu dit, quand tu seras devant cette surface qui ressemble à un désert, moi je te montrerai la voie que tu dois choisir. Dans la crainte de Dieu, c'est Dieu qui vient pour diriger tes pas. C'est Dieu qui vient pour te dire, ne va pas par cette voie-là, mais viens par cette voie ici. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu nous a mis dans cet état de marche. Et dans cette marche,
Le diable ne vient pas barrer la route que Dieu a tracée. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient dupliquer, il vient multiplier de fausses routes, de fausses voies pour nous embrouiller, pour nous mettre dans une sorte de confusion. Mais qu'est-ce que Dieu vient faire? Il vient, il te dit, pas cette voie-là. Voilà la voie qu'il faut suivre. C'est pourquoi la Bible est très claire. Quand nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en nous. Il vient habiter en nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de la marche par l'Esprit. En d'autres termes, quand nous nous convertissons, le Saint-Esprit vient et nous sommes collés avec lui. Et nous marchons ensemble avec lui si nous lui obéissons. Si nous décidons de continuer à marcher avec lui. Mais qu'est-ce qui arrive chez certaines personnes, chez plusieurs personnes? Ils abandonnent l'Esprit et ils avancent tout seuls. Mais celui qui doit te guider, tu l'as laissé. C'est pourquoi l'apôtre Paul met en parallèle les œuvres de l'Esprit avec les œuvres de la chair. Celui qui décide de marcher par les œuvres de la chair, il a abandonné les guides. Il a abandonné les conducteurs parfaits. C'est pourquoi beaucoup sont en train de tournoyer en rond, des années durant. Ils sont à l'église, mais ils font du surplace. Ils tournent en rond, rien n'évolue, rien n'avance pour eux. Des années durant, ils sont restés des bébés spirituels. Ils sont restés des chétifs. Ils sont partout à gauche et à droite. Pourquoi ? Parce que celui qui doit te conduire, tu l'as déjà abandonné. L'Éternel montre la voie qu'il faut choisir à l'homme ou à la femme qui les craint. Notre progrès dépend de notre mouvement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que marcher, c'est progresser. Lorsque quelqu'un marche, il évolue. Lorsque quelqu'un marche, il progresse dans sa vie. Il progresse dans sa relation avec Dieu. Mais posez-vous la question, est-ce que je marche dans la bonne direction? Tu diras que oui, j'évolue, je progresse. Mais écoutez ce que Proverbe 14:12 nous dit. Proverbe 14:12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Telle voie paraît agréable, paraît meilleure. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Beaucoup se sont engagés sur des voies, croyant que ce sont des voies qui vont les amener aussi au succès ou à briller. Mais il y a des voies qui ne vous feront jamais briller. Il y a des voies qui ne vous feront jamais briller. Vous resterez dans la maison de Dieu, vous serez comme un service d'accueil en cachette. C'est vous qui accueillez tous ceux qui viennent nouvellement dans les églises, mais vous êtes là, n'évoluant pas, faisant du surplace, tournoyant en rond, toujours avec les mêmes murmures, toujours avec les mêmes colportages, toujours avec les mêmes aventures, la même vie qui n'honore pas Dieu. Et vous êtes là. David continue pour dire, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Le verset 13, des Psaumes chapitre 25. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? La Bible dit, Dieu fait reposer son âme dans le bonheur. Vous entendez? Dieu fait reposer son âme dans le bonheur. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera les pays. Qui me dira que celui qui craint Dieu est appelé à rester pauvre? Non! Celui qui craint Dieu ne restera pas toute sa vie pauvre. La Bible est très claire. Son âme reposera dans le bonheur. Le diable t'a trompé pour te dire, si tu ne touches pas à cette corruption, ta vie est finie. C'est faux. La Bible est très claire. Son âme reposera dans le bonheur. Tu auras une âme tranquille. Tu auras une âme en paix. Et tu ne manqueras pas de quoi manger. Et tes enfants ne seront pas des mendiants. Marche dans la crainte de Dieu. Il y a un résultat qui est attaché. Et David termine au verset 14. Celui qui craint Dieu a l'amitié de Dieu. Il devient ami de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Veux-tu être ami de Dieu? Marche à la crainte de Dieu. Un ami n'a pas de secret pour son ami. Dieu n'aura pas de secret pour toi. Il te dira tout. Il te conduira sur toute la vérité. Il n'y aura rien qu'il te cache. Il n'y aura rien qu'il te cache. Je vais vous choquer encore avec quelque chose de très, très, très frappant, de très, très direct avec Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel 3, le verset 20. Si on peut nous afficher cela. Au verset 19, c'est tout Israël qui l'a reconnu, qu'il était prophète en Israël. Et puis, allons au verset 19, s'il vous plaît. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, un homme comme moi sur la terre, il parle à Dieu. Dieu écoute, il ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Vous ne savez pas là où la crainte de Dieu peut vous amener. Vous ne savez pas ce que vous loupez en craignant Dieu. Tu deviens ami de Dieu. Tout ce que tu dis, Dieu entend. Dieu exécute, Dieu exauce. Il ne laissa tomber à terre. Je n'ai pas exagéré, j'ai lu ça avec vous. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Nous prions ici, non? Babar poto, non babar poto. Tu pries comme ça, tata. Les journalistes vont crier au-dessus de la transversale. Mais lui, aucune de ses paroles, Dieu ne les a laissées tomber par terre. Pourquoi? La crainte de Dieu a un secret. La crainte de Dieu a un secret. Tu veux un bon mariage, ça apprend à craindre Dieu. Tu veux un bon travail, apprends à craindre Dieu. Tu veux avoir du succès, apprends à craindre Dieu. Apprends à craindre Dieu. Écoutez ceci. Ne cherche pas à récolter les honneurs là où tu as semé les mépris. Ne cherche pas à récolter les honneurs là où tu as semé les mépris. Dieu honore ce qu'il honore. Ne cherche pas à récolter les honneurs là où tu as semé les mépris. La Bible nous parle de Saoul. 1 Samuel 15, 26 à 30, n'allons pas lire. Saoul, Dieu lui dit par Samuel, ne sacrifie pas tout ça, ouais, tu vas sacrifier tout ce que vous allez prendre comme butin là-bas, tu vas tout tuer, tout, alors tout. Mais Saoul dit, bon, il y a des brebis grasses, je vais les garder pour l'Éternel. Et puis, il sacrifie, et puis il prend ces brebis-là, il sacrifie et tout ça. Non, il sacrifie même pas. Et puis, Samuel arrive. Samuel pose la question, Saoul, tu as fait comme Dieu avait dit. Oui, j'ai fait comme Dieu avait dit. J'ai tout fait vraiment comme la parole de Dieu avait dit. Et puis, il y a un agneau, ou c'est pas une chèvre là-bas, ou un bœuf, qui a commencé à faire les bêlements. Bœuf! Et puis Samuel dit, Wanani, qu'est-ce que j'entends là-bas? Oh non, c'était des trucs gras et tout ça, vraiment. C'était bon pour l'Éternel. Babiloga m'a foutu en colo à l'ingagayangwana. J'ai gardé ça pour lui. Samuel dit, ce n'est pas ce qu'on t'avait dit de faire. Il y a eu des échanges vraiment houleux entre les deux, le roi et le prophète. Et puis, alors que Samuel était sur le point de partir, Saoul va le retenir sur sa robe. Et la robe va se déchirer. Et Samuel va donner un message qui a finalement écarté Saoul de la voie de Dieu. Il dit, parce que tu as déchiré cet habit, l'Éternel déchire également ton royaume et il va le donner à un homme plus meilleur que toi. Tu es le meilleur de Dieu. Il dit, il va le donner à un homme meilleur que toi. Est-ce que vous comprenez un peu jusqu'où peut aller la crainte de Dieu? Mais maintenant, il y a quelque chose qui est très important. Et Saoul va quand même dire à Samuel, honore-moi devant les peuples, rentre avec moi. Tu veux récolter les honneurs là où tu as semé les mépris. Et c'est le cas de plusieurs ici. Ils prient matin, midi, soir pour que Dieu les honore avec un bon mariage. Alors que tu as semé les mépris. Tu pries que Dieu bénisse ton travail, que Dieu t'honore avec un bon grade, avec une promotion. Alors que tu as semé le mépris en ne donnant pas la dîme qui reflète la réalité, la vérité. Parce que la vraie dîme, on ne la pique pas sur les nets à payer. On la pique sur les brites.
Je sais que et puis si ba koyima yima kuna. Tout impôt se prélève sur les brutes. Pas sur les nets. La dîme n'est pas un impôt. Pourquoi on a donné un pourcentage? Vous méprisez Dieu par ce que vous apportez à la maison de Dieu. Vos dîmes ne reflètent pas la vérité, la réalité. On ne vous prélevez sur les nets à payer. Il faut prélever sur les brites. Tu sais que les nets là, c'est après déduction de plusieurs choses. Le crédit de la banque a été déduit. Et c'est ce que toi tu appelles les nets. Et c'est sur ça que tu prélèves les 10%. C'est sur les brites. Vous méprisez Dieu par vos offrandes. Nous méprisons Dieu par notre caractère, par notre attitude. Saoul, si tu as méprisé Dieu en refusant d'obéir à sa parole, pourquoi cherches-tu que Samuel t'honore en présence des anciens de tout Israël? Pourquoi? Plusieurs veulent à ce que Dieu les honore avec un bon ministère, accompagné de prodiges, de miracles, et beaucoup de miracles, beaucoup de membres, alors qu'ils méprisent le même Dieu par la vie de l'impudicité, l'adultère, les vols et des mauvaises pratiques. Comment comprendre qu'un pasteur vole l'argent? Mais il veut quand même avoir un ministère florissant, qui ait des miracles, qui ait des prodiges. Écoutez les secrets de ceux qui étaient au début de l'Église. Actes chapitre 2, le verset 43. Quel était le secret du succès de l'Église primitive? Ils n'étaient pas nombreux comme nous. Ils n'étaient que 120. C'était un groupe minoritaire, mais un groupe respectable. Tu peux manquer des choses, mais être respectable. Ce n'était pas majoritaire à ce moment-là. C'était les autres qui étaient majoritaires. Ils étaient minoritaires. Mais malgré leur minorité, ils étaient respectables. Acte 43, la Bible dit quoi? La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte s'emparait ensuite. La crainte, ensuite le miracle. Tu veux le miracle? Crains Dieu. Tu veux le prodige? Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Honore Dieu. Crains Dieu. Respecte Dieu. Tu veux vivre de grandes choses dans ta vie. Apprends la crainte de Dieu. Mets son tête dans la prière. Alors que nous avons nos têtes baissées, je vais faire un appel. Je vais demander à tout celui qui a été touché par la parole. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Sinon, tu te forces de marcher dans la crainte de Dieu. Mais la pression est de plus en plus dure. Tu te dis, si je continue avec cette allure, je risque de céder. Lève-toi là où tu es. Tu marches dans la crainte de Dieu, tu sens que c'est tout le monde qui s'acharne contre toi. Tu sens comme si tu reçois la pression de tout le monde. Tu es traité de tous les noms. Ce matin, lève-toi également devant ce Dieu-là. Dieu ne te demandera pas de marcher dans sa crainte s'il n'a pas prévu des résultats. Il dit, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Je sais que beaucoup sont en train de lutter dans leur cœur. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te battre contre toi-même. Libère ta conscience ce matin. Lève-toi. On n'a pas assez de temps. Libère ta conscience. C'est toi qui es en train de sombrer. C'est toi qui es en train d'aller comme les enfants d'Élie. Dieu t'aime. Si les enfants d'Élie sont morts, mais Dieu dit dans sa parole, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut que tous se convertissent. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu prennes une décision ce matin. Es-tu là pour prendre une décision? Merci à vous qui vous êtes déjà levés. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui nous suivez au loin, je sais que vous êtes nombreux à être touchés par ces messages. Priez et élevez vos voix devant Dieu. Demandez-lui pardon s'il faut le faire. Et si vous sentez que vous êtes en train de lutter, mais il y a la pression qui est là, demandez que Dieu vous donne la force. Que le Seigneur vous soutienne. Élevons nos voix, parlons au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Recommande-toi à Dieu. Tu as mal payé ta dîme. Tu as piqué sur les nets à payer au lieu de piquer sur les brites. Repends-toi également ce matin. Ne dis pas non, ça c'est quel type d'enseignement encore. Non, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a parlé. Seigneur, souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle, oh Dieu. La crainte de ton nom, Seigneur, s'il te plaît. Tu peux, oh Dieu, sauver, délivrer et libérer des vies, oh Dieu. Seigneur, tu entends les cris. Il y en a qui te demandent pardon. Et il y en a, Seigneur, oh Dieu, qui sentent la pression et qui luttent. Et qui continuent à lutter encore jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, ils ont besoin d'être agréables à toi. C'est pourquoi ils veulent t'associer, oh Dieu, dans cette prière ce matin. Pour te demander la force. Que tu leur donnes la force de tenir, de demeurer ferme, oh Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, oh Dieu. Ils ne veulent pas perdre leur salut à cause d'un petit rien. Et pourtant, tu as prévu, Seigneur, tu as prévu de grandes choses pour chacun de nous. Seigneur, merci. Je vais demander à toute l'Église de se lever, s'il vous plaît. Nous voulons prier pour l'Église de Jésus. Vous savez, il est constaté, il est fait ce constat que les conversions d'aujourd'hui sont devenues des conversions vraiment des façades, des conversions qui ne traduisent plus la crainte de Dieu comme dans le passé. Tout est banalisé, tout est pris à la légère. Nous allons prier pour l'Église de Jésus et particulièrement pour l'Église de la Borne Matadi. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que Dieu suscite encore cette conversion-là d'antan. Cette conversion où le frère et les sœurs ne se livraient pas de légèreté. Une vie chrétienne où ceux qui sont fiancés ne se connaissent pas avant le mariage. Ils attendent. Une conversion où l'on a la crainte du mal, on a la haine du mal. On ne veut pas cohabiter avec le mal. Que Dieu nous donne cette église-là. Que Dieu nous donne ces hommes-là. Que Dieu nous donne ces femmes-là. Qui craignent Dieu. Qui respirent la crainte de Dieu. Qui honorent Dieu par leur conduite et par leur comportement. Levez vos mains, je vais prier pour nous. C'est très important. Seigneur, moi tout comme cette assemblée, oh Dieu. Nous partageons les mêmes réalités. Nous partageons les mêmes peines, les mêmes angoisses, les mêmes pressions. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous aides à marcher dans la crainte de ton nom. Saint-Esprit, aide chacun de nous à marcher dans la crainte de Dieu. Nous ne voulons pas être une église légère, une église terre à terre, une église qui se veut moderne, mais au détriment des valeurs spirituelles. Garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Reprenez vos places. À cette heure, Seigneur, nous prions pour les dîmes, les offrandes et tout ce que nous t'apportons, ô Dieu. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, pour que cet argent serve à l'avancement de ton œuvre. Que ce peuple, en te donnant, les fasse avec crainte et tremblement, et même également ceux qui en assurent la gestion, qu'il les fasse avec crainte et tremblement. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.